Europe 1, service Pioline.
Service Pioline, bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Et 1, et 2, et 3, et 14. Titre pour Raphaël Nadal.
Ouais, ouais, ça paraît incroyable que de dire ça
à Roland Garros.
À Roland Garros, hein, juste à Roland Garros. 22 titres au total en tournoi du Grand Chelem. 6-3, 6-3, 6-0, 2h28 face à Casper Ruud, ce Norvégien, jeune Norvégien qui n'avait jamais encore disputé une finale en Grand Chelem. En plus, pour l'anecdote, on le rappelle, c'est tombé contre son idole d'enfance, jouer une finale face à Rafael Nadal. Ce n'est jamais évident et je vous propose de revivre la balle de match, l'annonce de la victoire de Nadal et puis ses premiers mots en anglais sur le court.
Rafael Nadal.
It's completely amazing the things that are happening.
C'est complètement fou ce qui arrive cette année, explique Rafael Nadal. Il remercie alors son encadrement, sa famille, expliquant que sans eux, avec ses blessures, hein, il aurait sans doute déjà pris sa retraite.
Especially in the very tough moments that we went through in terms of injuries, if I don't have a great.
Voilà, c'est ce que je vais vous sur sa retraite, ses blessures. Et après, actuellement.
Moment difficile. Hein,
et actuellement, il est en conférence de presse, puisque après. Ça se passe comme ça, vous gagnez une première déclaration sur le court, ensuite vous faites les télévisions oui. qui ont les droits, puis la conférence de presse générale. Et là, actuellement, il est en train d'expliquer que oui, il avait extrêmement mal à son pied gauche, que la retraite, finalement, il n'y pense pas tout de suite et qu'il a envie toujours de continuer, d'aller de l'avant. Il envisage déjà d'aller à Wimbledon. Et on rappelle, il a remporté l'Open d'Australie alors qu'il revenait de blessure en janvier. Là, il revient de blessure, il a toujours ce pied gauche qui le fait souffrir. Il gagne Roland Garros. Donc pourquoi pas maintenant avec Rafael Nadal se dire qu'il serait capable de faire ce qu'a failli réaliser l'an dernier Djokovic, à savoir le Grand Chelem. Il suffirait qu'il gagne, entre guillemets, il suffirait Wimbledon et l'US Open.
C'était complètement incertain en fait. C'est-à-dire qu'il était incertain au tournoi. Il arrive et puis finalement il se passe cet accident avec Zverev. Ou honnêtement, enfin, souvenez-vous quand même de cette demi-finale, on était au touche-touche. Hein, c'était 15-0, 15-A, 30-15, 30-A, etc., etc. C'est-à-dire que vraiment, on ne savait pas si c'était Alexander Zverev qui allait l'emporter ou Rafael Nadal. Et puis finalement, il y a eu cet accident. Tiens, il y a quand même ce qu'on appelle communément, et ça a été dit en politique pour Emmanuel Macron en 2017, mais là, il y a un alignement des planètes qui est quand même assez dément, quoi.
Oui, bah il a fait, en fait, on avait tendance à l'oublier parce que lui-même n'arrêtait pas de dire en début, avant le tournoi, qu'il voilà, il doutait de son corps, de sa condition physique. Donc lui-même nous répétait ça, qu'il avait de plus en plus mal aux pieds. Il évoquait, on l'a entendu là dans l'extrait, sa retraite. Donc il nous a quand même surpris. Et après, il y a cet alignement des planètes, mais c'est ce qui fait aussi la marque des grands champions. Et Rafael Nadal, de ce côté-là, il est assez chanceux. Cédric Pioline, bonsoir, vous êtes passé entre deux gouttes de deux averses là parce que la pluie s'est mise à tomber sur Roland Garros et sur Paris. On disait avec Pierre de Villeneuve, 14, Coupe des Mousquetaires, il est toujours là alors qu'on dit qu'il a mal aux pieds, alors qu'on dit qu'il a, enfin ça on ne dit pas, il a 36 ans, il est là et il écrase la concurrence. Cette finale, elle était à sens unique.
Oui, complètement à sens unique. Le miracle qu'on attendait n'a pas eu lieu. Même ça a été, je pense, un petit peu douloureux hein, pour son adversaire qui a complètement coulé dans son tennis. Et émotionnellement, plus le match avançait, 14 du Grand Chelem, c'est absolument... Enfin, juste pour Roland Garros, hein, on parle, c'est stratosphérique. Donc oui, après, c'est vrai que... il y a plein d'interrogations qui arrivent hein, suite à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe à 22 contre 20, titre du Grand Chelem contre Djokovic. Il est en passe de finir numéro 1 mondial. On est à mi-saison. Il a déjà une avance assez confortable à la race. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent et de questions qui arrivent, à savoir quel sera son programme pour les prochaines semaines ou mois à venir.
Alors je tiens à préciser que là, dans cette conférence de presse qu'il est en train de tenir, il est revenu aussi sur la manière qu'il avait pour agir contre cette douleur au pied, cette maladie dégénérative d'un os du pied. Forcément, plus vous avancez en âge, plus l'os est abîmé, plus la douleur est importante. Et il explique que là, avant chaque match, alors il n'a pas voulu donner le nombre, mais avant chaque match, il prenait des injections et son pied était totalement anesthésié, ce qui veut dire que son pied gauche, il ne le sentait pas sur le terrain, ce qui peut aussi avoir, évidemment, ça peut une des conséquences, une entorse ou un appui qui est mauvais, etc.
Oui, ou cacher le mal ou atténuer le mal, c'est bien dans le présent immédiat pour pouvoir supporter, enfin atténuer la douleur et puis jouer maintenant. Une fois qu'il va arrêter, comment son pied va réagir, quelle sera la douleur, c'est un petit peu, j'ai parlé un petit peu avec son équipe hein, tout à l'heure, c'est un petit peu le point d'interrogation hein, qu'ils ont à se dire dans 2-3 jours, qu'est-ce qui va se passer. Il a très envie évidemment de continuer sa saison, d'être à Wimbledon, mais il y a ce point d'interrogation sur son état physique en fait.
Et ce mot qu'il emploie aussi depuis un certain temps, qu'il a encore employé ici tout à l'heure sur le cours en disant s'il n'y avait pas eu mon encadrement, sans doute que j'aurais déjà pris ma retraite, mon encadrement, ma famille. Il y a son médecin aussi hein, qui l'a accompagné là, tout le long du tournoi. Ça veut dire que... voilà, hier, on était en train d'évoquer sur cette antenne, est-ce qu'il va peut-être annoncer sa retraite ou un gros break après Roland-Garros. Là, il n'en est pas du tout question hein, ce soir.
Non, je ne pense pas. Mais enfin, il y a probablement un petit mur qui s'est cassé dans sa tête où l'année passée il n'était pas du tout question de retraite et puis c'est venu dans son esprit suite à tous ces problèmes physiques. La saison d'une manière particulière pour Nadal et globale pour le circuit est un peu folle hein, dans tous les scénarios qui sont en train de s'inscrire, mais c'est vrai que pour revenir à Rafa, il est c'est dans sa tête, c'est dans sa tête maintenant. Est-ce que il fera partie de ces joueurs, de la majorité des joueurs qui joueront quelque part le tournoi de trop, le match de trop, et en se disant bon bah c'est l'heure, ou est-ce qu'il voudra sortir par le haut en étant numéro mondial, en étant victorieux en Grand Chelem? C'est une question et c'est une décision qui lui appartient surtout.
Alors on le disait tout à l'heure avec Axel, 22 titres du Grand Chelem, il met Djokovic et Federer à 2 unités de son record.
Ouais, c'est impressionnant. Enfin, là, je
la barre
presque
est hausse,
plus,
comme on dit.
Presque plus les mots, hein, parce que voilà, 22 titres du Grand Chelem. Federer, qui a 40 ans, lui qui s'y revient sera sans doute pour quelques tournois, mais pas. Ça semblerait quand même impossible qu'il remporte un titre du Grand Chelem. Donc le seul qui peut le concurrencer aujourd'hui, c'est Djokovic qui a un an de moins.
C'est Djoko, et c'est comme quoi tout peut aller très vite dans le monde du tennis, puisque l'année dernière, on était en train de se dire Djoko est ultra dominateur. Il était en finale de l'US Open pour faire le Grand Chelem Calendar, et puis là c'est finalement Rafa qui entre l'Australie et ici à Roland-Garros passe à 2 unités devant. Donc ça peut aller extrêmement extrêmement vite, d'autant plus que pour les deux grands chelems suivants, il y en a un. Alors bon, il y en a un qui donnera pas de points, c'est Wimbledon, on le sait. Maintenant, première
question. Oui, qui donnera pas de points parce que comme les Russes, voilà, ne sont pas là.
Question l'ATP a répliqué, mais la question première, c'est est-ce que on peut considérer que si jamais Djokovic ou même Nadal s'y joue, gagnait à Wimbledon, est-ce que ça compterait dans ce décompte? Déjà, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'heure où on se parle, Djokovic ne pourrait pas jouer, pas en Australie, mais aux États-Unis, puisqu'il faut avoir un vaccin pour rentrer sur le sol américain. Donc, et en Australie, il est banni de territoire pour 3 ans suite à l'épisode de début d'année. Donc, quelque part, enfin en tout cas, en termes de points, le premier grand chelem qui compterait pour Novak Djokovic, ça serait Roland-Garros 2023. Donc c'est quand même assez fou. Ça laisse encore une forme de latitude à Rafa pour augmenter son avance.
Même si sur l'Open d'Australie, les autorités ont quand même dit qu'elles pourraient peut-être revoir à la baisse la sanction.
Enfin, en tout cas, avec les informations à l'instant T.
Oui, il y a quelques sponsors derrière, donc évidemment, on revoit peut-être son jugement. C'est peut-être comme ça que ça marche. Enfin, moi, je dis ça.
Oui, il y aura des pressions.
Oui,
des,
voilà.
Des, voilà, en tout cas.
Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Rafael Nadal? Enfin, son quotidien juste après Roland Garros. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
Alors, je peux vous dire que moi, juste ce soir, là, il fait conférence de presse. Demain, à nouveau, demain, les photos sur la Tour Eiffel, etc. Après, il retourne chez lui au Baléares.
À Majorque. Et puis, je pense qu'il va se reposer. Il va y avoir un gros point justement médical. Il aura besoin, je pense, de décompresser et de laisser son corps retomber. Donc, allez, entre 2 et 5 jours, je pense que c'est à peu près le laps de temps.
Ça veut dire qu'il fait rien pendant 5 jours.
Il va pas faire grand chose. Je pense qu'il va aller jouer au golf parce qu'on sait tous qu'il est passionné de golf. Profiter un peu de sa famille, de ce magnifique parcours ici, et puis faire un point médical. pour savoir où il en est. On sait maintenant que depuis quelques années, il y a une semaine supplémentaire entre Roland-Garros et Wimbledon. Donc disons que ça lui laisserait 2 semaines ensuite pour se préparer éventuellement pour Wimbledon, ce qui, je pense, est suffisant pour un joueur tel que lui, et de prendre sa décision pour savoir s'il va disputer.
Oui, c'est-à-dire à ce stade, on ne sait toujours pas s'il va à Wimbledon ou pas. Donc.
Pour l'instant, non. Je pense qu'il y a de l'envie parce qu'on sait qu'il adore ce tournoi. Il a un grand respect pour. Il adore jouer sur gazon, mais on ne le sait pas encore.
Il l'a dit. Hein, il aimerait y aller. Voilà, il va voir ce que donne si son corps le lui permet. Mais en tout cas, il n'est plus question de faire une petite pause avant de continuer la saison, Pierre.
Bon, alors il y a quand même côté français un double cocorico.
Oui, un double cocorico féminin, puisque Mladenovic et Garcia, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont remporté après 2016 le titre en double dame. C'était ce matin face à la paire américaine Goff-Pegula. Et je vous propose d'écouter un petit peu leur première réaction sur le court.
Vainqueur du double dame Roland-Garros 2022. Elles obtiennent leur deuxième titre ici à Roland-Garros. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, France.
J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Donc déjà, je suis très très contente de refaire équipe avec Kristina et merci pour ces 2 semaines et de pouvoir aller rechercher le titre ensemble, deux Françaises. À Roland-Garros, il n'y a pas le meilleur titre pour nous.
Techniquement, on a oublié de remercier la FFT et Amélie pour nous avoir donné la wildcard parce que sinon, on ne gagnait pas Roland, je crois. On jouait plus trop en double, donc on n'avait plus trop de classement. Et donc, un grand merci.
Voilà, Mladenovic, on l'entend, hein, Cédric Pioline. Elle rappelle qu'ils ont eu une invitation de la part de la Fédération française de tennis pour venir jouer ici à Roland-Garros.
Oui, tout simplement parce qu'au niveau du classement, elle ne pouvait pas rentrer directement dans le tournoi. Donc, elles ont remercié Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, ainsi que la Fédération pour l'obtention de cette wildcard qui leur a permis, comme elle l'a dit très justement, de gagner. Mais c'est bien, ça rayonne, ça fait rayonner le tennis français. C'est super qu'il y ait une paire française qui ait gagné en double cette année.
D'ailleurs, à l'heure des bilans, Cédric, on a pour le tennis français, c'est un Roland-Garros, on va dire correct.
Je dirais pas ça. Je dirais que pour le au niveau des simples, et c'est évidemment l'activité phare que tout le monde suit, que ça soit chez les femmes, chez les hommes. Si ma mémoire est bonne, pas de Français ou Françaises au troisième tour.
Si on en avait 5 là au troisième tour.
Le dernier c'était Hugo.
En huitième.
Ah oui, en huitième. Voilà. Aucun est allé en huitième.
Oui, en huitième.
Mais c'était mieux que l'année dernière. Ça s'est arrêté au deuxième tour.
Oui, mais bon, essayons de raisonner par le haut plutôt que par le bas.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on peut se satisfaire. On espère vraiment tous que ça va remonter. Qu'on va avoir à nouveau des locomotives, en fait, c'est ça qu'il faut. À la limite, il n'en faut qu'un seul. Hein. Regardez Ruud, norvégien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et puis il est en finale. Donc on espère que la dynamique va s'inverser, qu'à nouveau on aura des représentants, représentantes en deuxième semaine ici à Roland-Garros.
L'organisation du tournoi a aussi fait le bilan ce matin, Axel.
Oui, c'est classique, le dimanche matin, on fait le bilan, et notamment en termes de billetterie et sur le remplissage, qui était vraiment la volonté d'Amélie Mauresmo, de remplir avec, vous savez, ces fameux billets annexes sub, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous achetez des billets pour les courses annexes, et puis s'il y avait de la place, et vous allez écouter Amélie Mauresmo, vous pouviez, en principe, aller dans le cours central.
Par rapport au remplissage, moi, je trouve que c'était plutôt pas mal. C'était pas parfait, hein. On est d'accord là-dessus. Et pour être plus précise sur les annexes up, il faut qu'on le retravaille. Parce que clairement, ça n'a pas été le succès qu'on espérait. En fait, le succès qu'on espérait, c'était lié aussi au sens civique de chacun. Et l'incivilité qu'on a pu remarquer très rapidement, a empêché finalement le reste, la majorité des détenteurs d'annexe up de pouvoir continuer à bénéficier de ça. Donc on l'a fait. Ça a été mis en place quand même quasiment toute la première semaine, mais ça n'a pas été le succès qu'on attendait ou qu'on espérait. Mais voilà, c'est de bonnes leçons aussi, je pense, pour nous à tirer de cette expérience-là et puis essayer de trouver d'autres façons de faire.
Voilà, Amélie Mauresmo qui expliquait donc effectivement qu'on a vu, on a pu voir nous, sur les images de télévision, qu'il y avait quelques trous quand même encore dans le cours Philippe Châtrier.
Merci Axel May, merci beaucoup Cédric Piolli
pour
cette
Pierre.
Quinzaine en votre compagnie.
Un grand plaisir.
Toujours un grand plaisir.
Et qui a gagné le tournoi des légendes aujourd'hui hein.
Bah oui, bah alors.
Non, on a perdu.
Ah, vous avez perdu.
On a perdu.
Vous êtes bien bon, informé
ça,
Axel May.
Ça me fait plaisir.
Bien informé Axel. Voilà, ça c'était la boulette du soir. Ça va Lionel?
Ça va très bien Pierre.
Sauvez-moi.
Je suis entre experts là. Cédric Piolli qui perd en finale. Axel May qui ne sait plus qui a gagné parmi les Français du tableau aujourd'hui. Néanmoins, on va tenter de faire une émission spéciale Roland-Garros dans quelques instants avec les mêmes, avec Axel, avec Cédric. Jean-François Pérez va nous rejoindre, mais surtout Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis, également Julien Bento, d'autres invités autour de Nadal. Le bilan de ce Roland-Garros et de cette belle quinzaine tout de même. On parlera de foot aussi puisqu'on est ensemble jusqu'à 23h, vous le savez.
A tout de suite et à tout de suite pour l'information avec Johan Tri.